À la droite du destin, pas d'escarpin. À la gauche non plus que des parallèles qui s'emboîtent à l'infini. Elle avait eu cette étrange sensation alors que la nuit venait de tomber. Ils avaient mangé au restaurant, elle avait essayé de parler, et puis il avait proposé de marcher un peu. Ils étaient partis le long des berges des quais de Saône. L'eau d'encre noire faisait des vagues, au passage des péniches éclairées. Ils avaient vu deux cygnes blancs posés entre les rondins d'eau, sur le bas-côté, cherchant à glisser leur long cou nerveux sous la couverture de leurs ailes. Ils avaient marché assez longtemps, continué jusqu'à une île, l'île Barbe, lieu de fête, de guinguettes, de balles sous les lampions, les jupes et les casquettes, les flanflans et les cotillons, et les nappes aux croisillons rouges et blancs. Tu entends l'accordéon ? Mais ça, c'était en quelle année ? On cherche sans trouver, on constate que les temps ont changé, pas les sourires à ce qu'on imagine d'autrefois. À la droite du destin, pas d'escarpin. À la gauche non plus. Cette nuit-là, agitée, elle avait rêvé d'eau. Des temples rouges au toit de Chine, qui glissaient dans une mer d'huile et laquée de gris. Elle et lui en barque passaient et repassaient sur l'eau argentée de non-dits, et à chaque passage, les toits rouges vermillons s'enfonçaient un peu plus comme des lames, comme lorsque le soleil à l'horizon se met à être avalé et que le regard essaie encore de le retenir. Elle s'était réveillée avec cette sensation bizarre de pesanteur et de clarté. Elle ne l'avait pas analysée, elle était restée avec. Ces toits rouges qui disparaissaient engloutis. L'image était précise et très claire, alors que rien dans sa vie ne l'était. Elle but un peu de cette clarté. Cela lui faisait du bien. Ces toits rouges s'isolaient au mystère de dragon disparaissant avec la précision du tranchant d'un couteau très aiguisé sous l'eau. Cette image s'imposait à elle. Elle avait pensé lui en parler. Cette nuit, j'ai rêvé de... Et puis elle l'avait gardé pour elle. Elle n'avait pas trouvé de lieu disponible en lui pour s'y rendre à pied avec la légèreté d'un printemps. Elle se méfiait à présent des plus belles impulsions. Elle avait flairé la menace. À la droite du destin, pas d'escarpin. À la gauche non plus. La balade de la veille lui revenait avec cette impression d'irréalité que signe la réalité. Cette eau d'un noir d'encre où ses péniches roulaient des mécaniques et dessinaient des parallèles le long des quais. La ville et ses lumières crues. Et ces cygnes qui cherchaient où glisser leur cou pour dormir, sans arriver à trouver l'aile de leur désir. Peut-être avaient-ils réussi en fin de compte, mais leur chemin à eux avait continué. Le thermomètre de Murakami testait la loi de temporalité. Elle se laissait aller au puits d'essayage d'autres destinations, d'autres vérités, là où elle pouvait le retrouver sans visage et sans drame, là où il n'y avait que des âmes déshabillées. Les néons sont éblouissants, trop, sur l'île Barbe. Barbe bleue ou Barbe à papa? Des gens avec le même t-shirt jouent aux boules, ou peut-être est-ce à autre chose, elle n'y a pas vraiment prêté attention. Personne ne croise leur chemin. C'est à se demander s'ils existent bien, ou s'ils sont dans un rêve, ou dans un roman d'Haruki. Il n'y a pas grand monde. Personne ne se promène dans ces endroits à pied. Les gens sont dans les restos ou les péniches, c'est samedi soir. Pourquoi lui a-t-il proposé cette balade? Depuis un moment, le scorpion du soupçon trousse chemise, s'amuse. Regarde la lune, on dirait qu'elle est presque pleine. C'est demain soir, je crois qu'elle l'est vraiment. Pleine de quoi? Tu sais bien qu'entre nous, c'est couru d'avance. Ah oui? Elle voit une biche bondir et recevoir la flèche. C'est le printemps, il ne fait pas froid. En avril de cette année-là, précisément, en ce désert des nuits, tout s'est découvert d'un fil. Un fil de trop. Il était devenu verbicruciste de leur destin décroisé. C'est en combien de lettres? Elle sut que l'image des toits vermillons et sculptés de beauté s'était présentée là pour la première fois. Le rêve avait pris une réalité d'avance. À la droite du destin, pas d'escarpin. À la gauche non plus. Tu sais bien qu'entre nous c'est couru d'avance. Ah bon? Je ne vois pas de coureur à l'horizon. L'humour tombe à l'eau avec les signes inquiets. Tu veux dire qu'ils ne peuvent plus trouver l'aile sous laquelle s'endormir paisiblement? La lame de couteau s'enfonce avec ce blanc métallique et chirurgical des mauvaises nouvelles. La première fois qu'elle avait entendu la langue du mensonge, elle en avait reconnu les signes, sans tout de suite y croire. Entre les mots, entre les gestes du corps, après les claquements de porte, entre les points et les virgules de ses phrases aux poudres anodines, et surtout à la vibration des écrans. Il avait une liaison qui s'alimentait de croissants informatiques très tôt le matin et de pain au chocolat téléporté. Il revenait alors avec cet air niais de nain de jardin, et le couteau lui avait glissé des mains. Elle avait dit pardon, et la colère avait commencé à battre la chamade dans ses plumes arrachées. Elle se sentait prédatée au destin d'un autre qui déciderait à présent du sien. La colère grondait d'orage avec la saison des tristesses. Pluie délicieuse des voyages autrefois partagés en un instant disparu. Mort d'un elfe. Il y avait quelque chose de dégoûtant, comme cette fois où elle avait vomi tout le cassoulet des heures durant, ce fameux cassoulet des vacances mijoté à la trahison, qu'on avait ressorti pour l'occasion en septembre après l'été, à l'occasion d'amis reçus qui ne savaient rien des coups tordus. Elle n'avait pas fait le lien tout de suite, mais ses intestins vrillaient, oui. Le cœur positionné trop haut, oui aussi, sa chair claquait des dents, bile et côtes se renvoyaient la balle, son corps avait parlé pour elle cette fois. Elle le remerciait d'avoir pris cette décision à sa place, entourant ses cartes postales du mal-être à l'intersection qui libère. Dans sa journée revenait ce rêve d'eau argentée où glissait la barque, où elle, lui, passait tout près des toits magnifiques, ruisselants de clair vermillon qui disparaissaient sous l'eau. Tout était couvert de silence et de brouillard blanc. Nous marchons là où nous ne pouvons plus nous rencontrer, ni nous tenir la main. Trop devant, ou trop derrière, personne ne sait la suite. Il avance à la parallèle de son propre destin. Il la distancie, il la laisse, l'oublie. Elle le voit de dos. Son dos est très seul. Sa silhouette est plus vieille que son âge. Elle sent sa peur de mourir sans avoir vécu son envie d'avoir envie d'autre chose que ce qui est. Tu sais bien que nous deux, c'était couru d'avance. Tu veux dire couru ou marché ou fui comme ces soirées d'été où tu t'enfuyais la nuit d'abord, le jour ensuite. Cette tendance à se fuir soi-même en pensant fuir l'autre. Cette tendance à s'exiler pour reconstruire une île ailleurs. Cette tendance à être tendance. Le pêcheur se réjouit. Il ne sait pas qu'il vient de prendre dans ses filets la femme squelette, la tête farcie de coquillages et d'algues vertes. Et soudain, il la voit, il a peur. Il court. Il court à perdre haleine, son ombre derrière lui. Elle suit. Elle suit entortillée à sa ligne, et en bout de course, essoufflée, elle, lui, s'arrête. Point. Tous deux. Point. Les voilà. Point. Dans l'igloo, à lui, face à face, un feu de Dieu sous les yeux réchauffe l'air et insuffle la confiance. Mais tout n'a pas une si belle fin. Tu ne peux plus t'asseoir les escarpins enlevés face au feu de Dieu. Ce lieu d'amour où les regards croisent leurs sourires, il l'évite. Il ne la voit plus qu'avec l'étrangeté des gens qui ne se connaissent pas. Elle se dit que ces mots à présent ne sont plus que des angles morts voués à toujours rencontrer l'impasse. Il n'y a plus d'écho. La nymphe se parallèle à l'île au néon de glace. Elle glisse sous l'aile d'un cygne qui lui-même glisse sous les toits rouges, qui eux-mêmes glissent sous la surface lisse et argentée des lames d'eau. C'est fini. Tout est recouvert. À l'intersection, tu as pris la tangente. Tu as fait ta valise et tu es parti. Dans son regard, elle vit qu'elle n'y était plus. Les ailes du désir se sont cassées. Les âmes sœurs ont désigné leur contrat qu'elle croyait pourtant éternel. Tu sais bien qu'un jour ou l'autre, j'allais te distancer. Dans sa tête arrosée de perles de chagrin, nagent des cygnes qui cherchent inquiets l'aile ou l'île où s'endormir. Pendant ce non-temps, dans le puits de Murakami, dort un cœur de plumes blanches à la patience infinie.